Vidéotron.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Alors, on va prendre quelques minutes pour parler de ce qui s'est passé hier. C'est passé encore pas mal inaperçu. Hier, c'était le blackface qui prenait à peu près toute la place. C'est un homme qui est soupçonné d'avoir trempé dans le vol de données de Desjardins qui voulait, entre autres, projeter une image de succès. C'était acheter une belle Lamborghini et tout ça. Et le gars a été identifié. Puis je peux vous donner son nom, c'est Juan Pablo Serrano, 33 ans, fait partie des 17 personnes d'intérêt que la Sûreté du Québec a rencontrées hier. Steve Waterhouse, bonjour.
Bonjour, Robert.
Est-ce qu'on va aboutir finalement dans cette enquête-là? Il me semble que c'est compliqué.
Ça l'est, Robert, mais c'est une très bonne nouvelle qu'on a su que donc la Sûreté du Québec ont des gens d'intérêt dans le collimateur qui ont agi et de façon concertée pour être sûr d'avoir la comparaison, la même histoire à comparer des 17 personnes d'intérêt pour pas qu'il y ait à se parler, changer le version, etc., l'adapter, comme on dit. Et c'est quand même, ça fait longtemps qu'on demande d'avoir des mises à jour et de comprendre où ils en sont. Pour des raisons tactiques et stratégiques, je suis certain qu'ils ne pouvaient pas en dire plus avant, mais maintenant, voici, ils ont fait quand même un bel avancé pour qu'on puisse comprendre. Là, ça ici, c'est une portée à longue haleine. C'est pas juste le sujet principal d'intérêt, mais je crois que c'est les activités de cette personne première-là qui a commis le méfait chez Desjardins, qui a toujours pas d'accusation, mais qui est là, il y avait peut-être trempé avec d'autres personnes dans d'autres situations. C'est là qu'on va peut-être avoir le résultat dans un avenir rapproché.
Parce que c'est vrai là, que le gars, pour ce qui est des fraudes liées à Desjardins, il n'y a rien de prouvé encore. Là, puis, mais c'est quelqu'un qui est d'intérêt parce que c'est quelqu'un qui est connu de Desjardins et des milieux policiers.
Oui, exactement. Et c'est l'employé, l'ex-employé de Desjardins, lui, présentement, il est encore en liberté. Il n'y a pas eu d'accusation portée contre lui pour pas que justement l'arrêt de Jordan, le compteur démarre et qu'il puisse s'en sortir librement. Mais primordialement, les services policiers veulent avoir une preuve hors de tout doute, et c'est pour ça que documenter une preuve informatique, c'est vraiment demandant, et surtout quand il y a des éléments clés qui sont absents d'un dossier d'enquête, il faut qu'ils redoublent d'efforts pour s'assurer que lorsqu'ils présentent la preuve en accusation, que ça soit vraiment solide et que ça ne fait pas à ce moment-là pout-pout parce que la preuve a été mal montée. Fait que oui, c'est pas rare de Robert de voir des procès, pas des procès, mais des accusations qui s'attardent à venir parce qu'ils veulent vraiment avoir la preuve pour que ça puisse suivre son cours et qu'il y ait condamnation.
OK. Lui, là, je ne sais pas si tu as vu son passé à ce gars-là, il installait des espèces de systèmes sur les guichets automatiques pour être capable de frauder l'identité de ceux qui allaient faire des retraits avec des cartes de crédit, entre autres, ou des cartes de guichets automatiques.
Oui, on appelle ça dans le jargon là, des ATM scrapers. Scrapers, par exemple, que ça va passer la grappe et ramasser justement les identifiants numériques de cartes de guichet pour qu'ils puissent à ce moment-là les reproduire et immédiatement aller faire vider des comptes de banque. Ça, c'est pas rare. On les voyait souvent dans les stations d'essence, que soit sur les stations, les pompes même ou bien à l'intérieur avec un entente, des fois un complice à l'intérieur du commerce. Ben, ils installaient ça, puis c'est souvent à la suite de passer la carte deux fois que les gens se réalisaient qu'il y avait peut-être eu possibilité de fraude, parce que la première fois, il lit la bande magnétique, la personne a mis son NIP, mais donc c'était pour capter l'information originale. Après coup, il donnait l'accès au vrai terminal, et là, la personne pouvait faire la transaction, ce que abaissait les doutes de la personne. Et une fois que le client a quitté le commerce, mais les autres malfaisants pouvaient à ce moment-là reproduire une carte et s'en servir pour frauder.
OK. Je veux pas te mettre dans l'embarras. Dernière question avant de te laisser aller, Steve, mais est-ce qu'avec les données qu'on a, les infos qu'on a maintenant, est-ce que tu penses que les enquêteurs vont réussir d'abord à remonter jusqu'à la tête de la fraude et faire le ménage également, ou colmater les brèches, comme je le disais il y a quelques minutes, pour faire en sorte que nos données personnelles ne puissent pas servir à des criminels?
Ben, pour l'enquête, je ne peux pas savoir, parce que je ne connais pas tous les tenants aboutissants de l'enquête, mais à ce moment-ci, je peux juste dire que l'enquête se poursuit. Je pense qu'on a fait la même analyse, toi et moi. Mais dans la protection des données personnelles, là, ça relève vraiment des entreprises. Dans ce cas-ci, Desjardins a annoncé qu'il semble avoir fait le maximum possible pour empêcher une situation similaire d'arriver, mais il reste fondamentalement qu'il y a des pratiques d'entreprise et ça, c'est à travers le pays au complet, qui doivent revoir, mais surtout à la législation, Robert, il y a des lois qui devraient être amenées, et ça, ça devrait être un débat électoral, dans le sens que quel parti, le prochain parti au pouvoir, comment est-ce qu'il s'engage à réviser les lois, les procédures, le rôle du commissaire à la vie privée dans la protection des données personnelles. Présentement, le commissaire à la vie privée du Canada légifère, ben pas légifère, il n'y a pas de loi, il fait des recommandations, puis après ça, les lois sont votées. Au Québec, on a le commissaire d'accès à l'information, mais lui, il est tellement passif, Robert, les gens ne savent même pas qu'il existe cet organisme-là, et c'est cet organisme-là qui devrait prendre le leadership à proposer des lois et règlements pour davantage resserrer cette approche-là. La ministre Lebel, ministre de la Justice, elle a un projet de loi que je crois qui s'en vient bientôt, si ce n'est pas déjà fait, qui va proposer des mesures pour être capable d'aider les entreprises et les citoyens pour justement avoir un sentiment de sécurité avec nos données personnelles. Mais il reste toujours bien que les lois criminelles sont au fédéral, puis il faut aussi que les éléments fédéraux, il faut qu'ils s'y mettent pour réviser justement les lois. Puis c'est pour ça que je souhaite que dans les débats qu'on va voir dans les prochaines semaines, et qu'on en parle et on adresse le sujet sérieusement.
Hey, merci beaucoup. Toujours un grand plaisir de t'entendre.
C'est un plaisir. Bonne fin de semaine.
À bientôt. Voilà. Un spécialiste de la question, Steve Waterhouse. Midi 58 minutes, on va aller s'informer dans quelques instants. Et au retour, après les nouvelles, on va prendre les derniers éléments de ce procès. On va se les faire raconter par Annie Guillemette, procès de Fredette accusée de 2 meurtres. Je vous rappelle qu'à compter de 13h30 aujourd'hui, c'est vendredi, on va consommer peut-être des alcools ou encore des bières dans le studio parce que c'est le grand salon qui vous sera présenté à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour déguster les vins, les bières et les spiritueux. C'est une tradition, ça fait plusieurs années qu'on fait ça et tout ça au profit du sport universitaire.
Hein, les Patriotes. Au profit des équipes des Patriotes, donc vendredi de la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Serge, de me le rappeler.
Ben, c'est juste un cas qu'on confonde et qu'on pense que c'est aujourd'hui.
C'est la semaine prochaine.
Oui, c'est la semaine prochaine.
Non, c'est ça, on prend de l'avance un peu.
Ben oui, c'est
on
bien,
vous en parlera
ça.
Aussi la semaine prochaine. Es-tu déjà allé, toi, dans ces
oui,
événements-là?
Oui, je suis allé à quelques reprises. Oui. Puis au départ, ça avait été créé par l'équipe de hockey masculine des Patriotes. Les profits étaient versés, justement, à l'équipe de hockey. Et après ça, depuis quelques années maintenant, ben, ces profits-là, justement, sont attribués là, aux équipes, aux différentes équipes des Patriotes de l'UQTR.
Hey, j'avais 2 salutations à faire, je l'ai oublié hier, c'était l'anniversaire de Tommy Carpentier chez Métaux de l'Ami. Il est aux ventes et transformations des métaux et du découpage au placement. Alors, salutations. Je voulais saluer également toute la gang du complexe funéraire Jules Garneau qui a été reconnue pour son travail tout à fait exceptionnel. Une distinction qui a été accordée pour le 100e anniversaire de l'entreprise. La certification distinction a été mise par la Corporation des thanatologues aux entreprises funéraires qui amorce volontairement un processus de qualification rigoureux. Félicitations à toute l'équipe. À la pause.